A passenger has died. He was murdered.
Monsieur Poirot.
Un thé avec Agatha Christie.
I am Agatha Christie.
Sonia Fairchak.
Elle a écrit « Le crime de l'Orient Express et le meurtre de Roger Ackroyd ». Mort sur le Nil, et ils étaient 10. Des chefs-d'œuvre de la littérature policière, des chefs-d'œuvre tout court. Elle, c'est Agatha Christie, la romancière la plus lue au monde. Aujourd'hui encore, ses livres continuent de se vendre comme des petits scones, à raison de 4 millions par an. Et si vous allez à Londres, on vous conseillera sûrement d'aller voir La Souricière, The Mousetrap, un monument du théâtre signé Christie qui fête 75 ans de représentation. Alors que dans quelques jours, nous célébrerons les 50 ans de sa disparition, je vous invite à mener l'enquête, à l'heure du thé, en explorant sa vie, son œuvre et les raisons de son incroyable succès. Bonjour, bienvenue dans un thé avec Agatha Christie.
France Inter, un thé avec Agatha Christie, épisode 4, Corpus Christi.
On a beaucoup reproché à Agatha Christie de mettre en scène des crimes aseptisés, des cadavres inodores sans la moindre trace de sang. Comme si l'écrivaine n'était pas capable de décrire la mort. Et si justement, les corps dans ses romans racontaient autre chose que le crime. C'est ce que nous allons élucider dans un premier temps, avant d'inviter le romancier Maxime Chattam à rejoindre notre enquête.
Mrs. Bantry rêvait. Ses pois de senteur venaient de remporter un premier prix à l'exposition florale. Le pasteur, revêtu de sa soutane et de son surplis, distribuait les récompenses dans l'église. Sa femme traversait nonchalamment l'auguste assemblée en maillot de bain, mais, heureux privilège des songes, cette incongruité ne soulevait pas parmi les paroissiens le tollé qu'elle eut assurément déclenché dans la réalité. Mrs. Bantry était ravie. Elle adorait ses rêves du petit matin qui s'achevaient par le premier thé de la journée. Mais dans son sommeil, elle fronça le sourcil. Quelque chose d'insolite venait perturber son rêve. Quelque chose d'intempestif. Les pas dans le couloir, trop précipités. Les coups furent toqués à la porte. Dans la pénombre verte de la chambre, la voix de Mary s'éleva, haletante, affolée.
« Madame, oh, madame, il y a un cadavre dans la bibliothèque !»
Soit son rêve avait pris très étrange tournure, soit Mary avait vraiment fait irruption dans la chambre et dit « incroyable, extravagant !» qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque. « Impossible, j'ai dû rêver !» Mais tout en prononçant ces mots, Mrs. Bantry se sentait de plus en plus certaine qu'il n'en était rien et que Mary, sa Mary, si maîtresse d'elle-même, avait effectivement lancé ces paroles stupéfiantes. Après une minute de réflexion, elle balança un coude, aussi conjugal qu'impérieux, dans les côtes de son mari endormi. « Arthur ! Arthur ! Réveille-toi ! »
«
Mais écoute donc ! Mary est entrée et a dit qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque !»«
Qu'est-ce qui dit ça ?»«
Mary ! » Le colonel Bantry rassembla ses facultés éparses et essaya de prendre la situation en main.
« Mary est entrée ici pour dire qu'il y avait un cadavre dans la bibliothèque ?»«
Oui !»«
Je vois pas ce qu'il ficherait là, voyons !»«
Non, bien sûr. Mais alors pourquoi Mary a-t-elle dit qu'il y en avait un ?»«
Elle n'a pas pu dire ça !»«
Je t'assure que si !» De toute façon, Arthur, il faut te lever pour aller voir.
Tu veux que je descende demander s'il y a un cadavre dans la bibliothèque? Et je vais avoir l'air malin.
Tu n'auras pas besoin de demander quoi que ce soit. S'il y a vraiment un cadavre, on te le dira bien vite. En grommelant, le colonel Bantry s'enveloppa dans sa robe de chambre et quitta la pièce. Il suivit le couloir et descendit l'escalier. Au bas des marches, il trouva un petit groupe de domestiques pelotonnés les uns contre les autres. Certains sanglotaient. Le maître d'hôtel s'avança, la mine grave.
« Je suis bien content que monsieur soit là.
J'ai donné ordre qu'on ne touche à rien jusqu'à l'arrivée de monsieur. Monsieur désire-t-il que j'appelle la police ?
Appeler la police ? Pourquoi ?
Je pensais que monsieur était au courant. Mary est entrée dans la bibliothèque pour ouvrir les rideaux, comme d'habitude, et elle a manqué trébucher sur le cadavre.
Vous voulez dire qu'il y a un cadavre dans ma bibliothèque ? Dans ma bibliothèque ?
Peut-être monsieur désire-t-il en juger par lui-même.
Ouverture du dossier Corpus Christi avec cet extrait des premières pages du Cadavre dans la bibliothèque, roman d'Agatha Christie de 1942. Un début particulièrement drôle et savoureux, aux allures de parodie. Agatha tire le dialogue vers l'absurde, ou plus exactement vers l'exercice de style. Et la romancière s'en explique, en préambule de son intrigue.
Le cadavre dans la bibliothèque est l'un des clichés attachés au roman policier. Et voilà longtemps déjà que je caressais l'idée de m'essayer à des variations sur un thème donné. Je m'étais, pour ce faire, imposé certaines règles. La bibliothèque en question devait être archi-banale et conventionnelle. Le cadavre, au contraire, complètement extravagant et faire sensation.
Mission accomplie. La bibliothèque de Bantry est comme lui, ultra classique, une image d'Épinal. Au milieu, le corps de la jeune femme blonde, en robe de satin tape à l'œil et par contraste, extravagant à souhait. C'est sûr, ce cadavre va faire sensation à Sainte Mary Mead, le village où habitent les Bantry et une certaine Miss Jane Marple aussi. Voici ce que dit Dolly Bantry du cadavre.
« Quand vous verrez cette fille, vous serez d'accord avec moi, Jane. Elle n'a pas l'air réelle pour deux sous. »
Il y a une théorie du poète anglais Winston Oden que je voudrais vous faire partager. Pour lui, dans un roman policier, le cadavre doit choquer non seulement parce que c'est un cadavre, mais aussi parce qu'il est affreusement déplacé, comme lorsqu'un chien salit le tapis du salon. Et c'est bien le cas dans le roman d'Agatha. Le cadavre retrouvé chez les Bantry est on ne peut plus déplacé. Il n'est même que ça, inconvenant.
On a trouvé un cadavre dans la bibliothèque du colonel Bantry. Un cadavre de femme.
Dans sa bibliothèque ?
Oui, c'est épouvantable, n'est-ce pas ? Miss Hartnell parvenait mal à dissimuler son intense jubilation.
Pauvre Mrs. Bantry !
Ça oui, alors. Elle devait être loin de se douter.
Elle s'occupait trop de son jardin et pas assez de son mari. Un homme, il faut tout le temps avoir l'œil dessus. Tout le temps. Tout le temps.
Miss Hartnell va être déçue. Ce cadavre, trouvé chez cette pauvre Mrs. Bantry, est bien la preuve d'une sombre affaire familiale. Mais pas dans la famille qu'elle croit. Le corps a vraiment été déplacé. Au sens propre, la victime a été tuée, puis transportée jusque chez les Bantry. Comme la romancière s'en est expliquée dans le préambule de son roman, elle a joué avec le motif du cadavre dans la bibliothèque. C'est important pour la suite. La 7e des 20 règles du roman policier, établie par l'Américain Van Dien en 1928, est claire. Un roman policier sans cadavre, ça n'existe pas. Les intrigues d'Agatha en sont plein. Mais ses collègues sont nombreux à noter que les corps de ses victimes manquent de chair, comme Boileau Narcejac.
Je crois qu'on peut dire que Agatha Christie, c'était le roman bien pensant, c'est-à-dire le roman sans violence, aimable, psychologique, capable d'intéresser les dames autant que les messieurs. Et par conséquent, je crois que c'est là la raison pour laquelle son œuvre a eu cette immense audience.
Un roman sans violence, elle a quand même tué quelques 250 personnes,
oui,
je crois.
Oui, mais de quelle façon ?
Élégante.
De quelle façon élégante ? En douceur. On décrivait jamais le sang, on décrivait jamais le cadavre. Je dirais même qu'il n'y avait pas de cadavre, il y avait simplement un cas à élucider.
Un peu méprisant, peut-être. L'Américain Raymond Chandler, lui-même romancier et théoricien du polar, est tout aussi condescendant. C'est Agatha qu'il vise en disant qu'il faut sortir le crime du vase vénitien pour le remettre au milieu de la rue. Sous-entendu, cette bourgeoise qui fait du crime aseptisé, c'est vraiment n'importe quoi. Quant à l'auteur anglais Robin Cook, son passé de criminel l'autorise à déclarer « La reine du crime n'a jamais vu ni cadavre, ni merde, ni sang. » Alors que, des morts, des viscères et des humeurs, Christie en a vu. Beaucoup. Et là, désolé Mr. Cook, vous vous trompez du tout au tout. Question courage, l'écrivaine n'a pas démérité. Rappelez-vous les cours de secourisme que j'ai racontés lundi, dans l'épisode 1 de notre thé avec Agatha. Des cours qui s'accompagnent de travaux pratiques, sanguinolents, éprouvants. Et puis il y a cet épisode, au moment de la déclaration de la Première Guerre mondiale. Agatha qui file à son détachement d'aide volontaire aux blessés, à l'hôpital de Torquay. D'abord aide-soignante, on la charge d'astiquer des cuivres à tour de bras. Ça ne dure pas. Au bout de 5 jours, elle est admise aux soins, immédiatement confrontée aux horreurs de la guerre. Des corps déchiquetés, elle en voit. Des soldats gravement blessés, elle en soigne. Et puis...
Il y eut un cas de tétanos dans le premier arrivage des blessés qui nous parvint. Ce fut notre premier décès. Et cela nous secoua toutes. Mais finalement, à l'issue de 3 semaines, c'était comme si j'avais soigné des soldats toute ma vie.
La jeune bénévole apprend vite. On lui propose d'assister les chirurgiens en salle d'opération. La première fois, les murs se mettent à tourner. Agatha perd pied, c'est le vertige. Elle s'évanouit presque. L'infirmière en chef la rassure. Elle n'est pas encore habituée à la chaleur du bloc, ni à l'odeur de l'éther. Et puis c'était une opération à l'abdomen, terrible, parmi les plus pénibles à voir. Sa supérieure se montre catégorique. Il va falloir tout faire pour tenir le choc. Dont acte. Agatha se prépare, prend sur elle, et ça marche. Pour sa deuxième intervention, elle n'a plus le moindre problème à voir l'intérieur du corps, la merde et le sang. Il lui arrive simplement de détourner les yeux au moment où le scalpel entame la peau. Ensuite, plus rien ne l'effraie. Tandis que la guerre s'enlise, la jeune infirmière prend du galon. Le métier l'enthousiasme.
J'ai toujours trouvé que c'était le plus beau des métiers. Je crois que si je ne m'étais pas mariée après la guerre, j'aurais suivi une formation complète pour travailler dans un hôpital.
On lui confie davantage de responsabilités. Agatha déroule ses souvenirs dans son autobiographie. Le métier est difficile, mais pas que.
Je me souviens d'une nouvelle qui avait assisté à une opération et à qui on avait laissé le soin de tout ranger après l'intervention. Je me revois l'aider à descendre une jambe amputée à l'incinérateur. Cela dépassait les forces de la pauvre petite. Ensuite, nous dûmes tout nettoyer, laver le sang. Elle était trop jeune et trop novice pour se voir confier aussitôt et seule une tâche pareille. Je me souviens également d'un sergent à l'air sérieux qui me fit rédiger des lettres d'amour. Il ne savait ni lire ni écrire. Il me signala en gros ce qu'il voulait exprimer. « Ah, c'est absolument parfait, mademoiselle » fit-il bientôt avec un hochement de tête approbateur. « Vous pourriez me la faire en 3 exemplaires ?»« 3 exemplaires ?»« Bah oui, un pour Nelly, un pour Jessie et un pour Margaret. »
Agatha Christie a donc bien mis les mains dans le corps. Si elle l'avait voulu, elle aurait pu, elle aurait su décrire le spectacle des os brisés, des viscères, l'odeur du sang. Mais non, ce n'est pas son choix, ni par ignorance, ni par dégoût, ni par peur. Et ceux qui la jugent avec dédain, avec une pointe de misogynie, non ? Cela se trompe. Et puis dites donc, ils ne sont pas si nombreux, les écrivains, à avoir descendu une jambe amputée à l'incinérateur. Hein, messieurs les connaisseurs ?
Beaucoup d'hommes sont comme ça, vous savez. Ils préfèrent éviter les chambres de malades. C'est plus fort qu'eux. Ce n'est pas par manque de cœur. Ils ont peur de ne pas pouvoir supporter.
Agatha est un rien moqueuse dans ce passage du roman « Je ne suis pas coupable ». L'un de ceux innombrables où la romancière met en scène des infirmières. Dans son dispensaire littéraire, parmi toutes les soignantes qu'elle décrit, Christie prend beaucoup de plaisir à brosser le portrait de jeunes femmes toujours un peu dotées du même caractère. Droite, courageuse, espiègle, marrante et qui ne la ramène pas. Anne Bedingfeld, inoubliable héroïne de L'homme au complet marron, fait partie du lot.
Ce n'était pas un médecin.
Quoi ?
Ce n'était pas un médecin.
Comment savez-vous ça, Miss Bedingfeld ?
C'est difficile à dire, mais j'ai travaillé dans des hôpitaux durant la guerre. Et j'ai vu les médecins manier les corps. Ils le font avec une espèce de rudesse professionnelle que cet homme n'avait pas. De plus, un médecin ne va pas chercher le cœur à droite, d'habitude.
Et puis, quant à affirmer que les corps dont parle l'écrivaine manquent de chair, ça n'est pas toujours vrai. Dans son autobiographie, voici comment Agatha parle du sien de corps. Nous sommes à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Max Mallowan, le second mari d'Agatha, revient d'Afrique du Nord, où il a passé 3 ans. La romancière l'attend, fébrile, et un peu inquiète aussi. Va-t-il revenir changé ? Toujours cette vieille obsession qu'un proche soit devenu une autre personne. Ce dont j'ai parlé dans l'épisode 2 de notre thé avec Agatha.
Une silhouette chargée de tout le barda possible et imaginable montait vaillamment les marches. Je le reconnus tout de suite. C'était mon mari. 2 minutes plus tard, j'avais la preuve que toutes mes craintes de voir nos rapports altérés, qu'il ait changé, étaient sans fondement. C'était Max. Comme s'il n'était parti qu'hier, il était de retour. Nous étions de retour. Une terrible odeur de harengs sort en train de brûler vint frapper nos narines et nous nous précipitâmes dans l'appartement. « Que diable es-tu en train de faire cuire ? » demanda-t-il. « Des harengs sort, tu ne ferais pas mal de t'en servir un. » Nous nous regardâmes. « Max, m'écriai-je, tu as bien pris 12 kilos. »« À peu près. Et tu n'as pas perdu de poids toi non plus, remarqua-t-il. » C'est à cause des patates. Quand tu n'as pas de viande, tu te rabats sur le pain et les pommes de terre. Mais toi, vivre dans le désert du Fezzan devrait plutôt faire maigrir, non ? Pas du tout. Il n'y avait rien d'autre à faire que rester à se tourner les pouces, ingurgiter une nourriture dégoulinante de graisse et boire de la bière. Ainsi donc, à nous deux, nous pesions 24 kilos de plus que quand il était parti. Ce fut une merveilleuse soirée. Nous nous délectâmes de harengs sort calcinés. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river. What do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in, my Lord. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down.
C'était un Johnny Cash crépusculaire qui chantait Ain't No Grave.
France Inter. Thé avec Agatha Christie, Sonia Fairchak.
Agatha Christie est de retour sur France Inter, dans notre épisode 4, Corpus Christi. Si Boileau Narcejac, Raymond Chandler et Robin Cook se trompent du tout au tout quand ils traitent Agatha de chochotte, En revanche, ils ont raison sur un point. Dans ses romans, le cadavre détonne par son côté propre. La scène de crime n'est jamais souillée. Pas de sang, pas de traces corporelles. Pas de scène de crime proprement dite, d'ailleurs, chez Agatha Christie. La description du cadavre est évacuée en deux lignes, rarement plus. Le meurtre n'est jamais décrit. Le cadavre est toujours découvert après coup, quand le sang ne coule plus, quand la victime est littéralement refroidie. Au pire, l'horreur est diluée dans des lieux communs, du genre...
Du sang, il y en avait partout. C'était une véritable scène de carnage.
Du sang ? Christie semble assaisonner ses crimes au ketchup, plutôt. Pour paraphraser le cinéaste Jean-Luc Godard, ce n'est pas du sang, c'est du rouge. Agatha ne raconte jamais le meurtre lui-même. La douleur physique est évacuée. Tout comme la douleur psychologique du deuil des proches. C'est quand même étonnant. Ce sont des meurtres. On pourrait s'attendre à ce que dans l'entourage de la victime, les personnages passent par toute la gamme des émotions. Sidération, terreur, évanouissement, colère, accablement, sans parler de tristesse. Rien de tout cela. Même quand l'assassin a besoin de rendre sa victime méconnaissable pour éviter son identification, le cadavre ne suscite jamais l'effroi. Et ceux qui le découvrent ne sont pas tellement affectés. Dans le roman 1, 2, 3, une femme est retrouvée dans une malle, la tête embouillie, un mois après le meurtre. Christie se limite à suggérer la conséquence d'une telle vision d'horreur. Le concierge vomit. L'inspecteur Jappe et Hercule Poirot sont au bord de tourner de l'œil. C'est tout. Cette violence n'intéresse pas Agatha. En tout cas, pas cette violence-là. Rappelez-vous ce que pouvait déclarer Mrs. Bantry à propos du cadavre retrouvé dans la bibliothèque de son mari. La victime n'a pas l'air réelle pour dessous. Ben voilà. C'est vrai dans tous les romans d'Agatha Christie. Le corps est irréel, abstrait. Seule certitude, il y a un cadavre dans la maison. Mais alors, à quoi il sert, ce corps ? Que raconte-t-il s'il ne dit rien du crime ? C'est comme s'il signifiait autre chose. Mais quoi ? En fait, dans les romans d'Agatha Christie, le corps ne raconte pas le crime sanglant qui vient d'être commis. Il raconte un autre crime, un crime invisible et pernicieux, celui de la famille qui ne voulait pas voir le mal. À cause de, ou plutôt grâce au cadavre, tous les membres de la maisonnée sont obligés d'admettre qu'il y a de la violence, de la malveillance sous leur toit. C'est une scène extraordinaire de jeu de glace. Le roman se déroule à Stony Gates, un grand domaine qui héberge à la fois un centre de réinsertion pour jeunes délinquants et toute la famille de l'homme qui en est le directeur, Lewis Serocold. Une dispute très violente éclate entre Lewis et Edgar Lawson, l'un de ses jeunes protégés. L'altercation a lieu dans le bureau, fermé à clé. Soudain, on entend un coup de feu.
Ce misérable a tué Mr. Serocold. Oh, je t'en prie, Mildred.
C'était Carrie Louise qui parlait. Elle se leva et s'approcha de la porte du bureau.
Laissez-moi lui parler. Edgar, ouvrez-moi, voulez-vous ?
On entendit la clé s'enfoncer et tourner dans la serrure. Quelqu'un ouvrit lentement la porte. Ce n'était pas Edgar, mais Lewis Serocold. Il respirait bruyamment, comme s'il avait couru. Rien, à part cela, ne trahissait en lui la moindre émotion.
Tout va bien, ma chérie, tout va parfaitement bien.
Nous vous croyons mort.
Mais non, je ne suis pas mort.
On voyait Edgar Lawson écroulé près du bureau. Il haletait et sanglotait tout à la fois. Son revolver était tombé sur le parquet à côté de lui.
Mais nous avons entendu tirer.
Eh bien oui, il a tiré deux fois.
Et il vous a manqué?
Naturellement, il m'a manqué.
Miss Marple avait l'impression que ce n'était pas si naturel que ça. Les coups avaient dû être tirés à bout portant.
Où est le docteur Maverick? C'est de Maverick que nous avons besoin.
Je vais le chercher. Est-ce que j'appelle aussi la police?
La police? Certainement pas.
Mais bien sûr que si. Il faut appeler la police.
Edgar gémissait dans son coin.
Jamais j'ai voulu faire une chose pareille. Je sais pas ce qui m'a pris, pardon, Mr. Scrocole. Je n'ai jamais eu l'intention.
Ça va, mon pauvre gars, il n'y a rien de cassé. Walter Hudd traversa la pièce et alla examiner le mur derrière la table. Il regarda comment étaient placés le bureau et le fauteuil, puis ajouta « Il s'en est pas fallu de beaucoup !» Au même moment, Miss Beliver entra bruyamment, les lèvres serrées, la figure congestionnée.
« J'ai téléphoné à la police. Ils seront là dans quelques minutes. »
« Je vous ai dit que je ne voulais pas qu'on appelle la police. C'est un problème médical. »
« Peut-être bien. J'ai mon avis là-dessus. Mais il fallait bien que j'appelle la police. Mr. Goldbrandsen a été assassiné. »
Les habitants de Stony Gates ne peuvent pas laisser le corps de Goldbrandsen en plan. Ils ne peuvent plus se raconter, comme Lewis et la délicieuse Carrie Louise, que tout va bien. Ils ne peuvent plus faire comme si. Laisser le cadavre où il est serait illégal et tout sauf hygiénique. Dans cette scène exemplaire, le cadavre n'est pas réel. Agatha ne s'attarde pas sur ce pauvre Mr. Goldbrandsen assassiné. Elle lui donne une fonction symbolique. Il met en lumière qu'il y a un problème, un gros problème dans cette famille totalement dysfonctionnelle. L'assassin court encore, mais ouf, l'existence du problème vient d'être soulevée. De ce point de vue, Agatha Christie est une autrice complètement à part parmi tous les auteurs de romans policiers. Dans la plupart des autres romans, le ouf de soulagement est celui du retour à l'ordre établi. L'assassin est arrêté. Ouf ! Le bien triomphe du mal. Ouf ! Dans les intrigues familiales d'Agatha, c'est le contraire. Le ouf commence dès le début de l'intrigue, dès la découverte du corps. Le cadavre oblige la famille à ouvrir les yeux. Ouf ! À prendre conscience qu'il y a un problème. Grâce à lui, la vérité devient factuelle, irréfutable. Il y a de la violence à domicile. La preuve a saigné dans la bergère. La preuve gît en travers du tapis. La preuve est dans le placard à balai. Le problème familial nié jusqu'ici est devenu évident. Vous êtes bien sur France Inter, dans un thé avec Agatha Christie. Aujourd'hui, Corpus Christi. Dans tous les romans d'Agatha Christie, le corps va libérer la parole. La découverte du cadavre oblige la famille à voir et à parler. À parler du meurtre, évidemment, en premier lieu. C'est urgent. Mais pas seulement du meurtre. C'est là où Agatha devient une romancière super moderne. Dans les familles qu'elle décrit, la découverte du corps amène à appeler la police, ou Poirot, ou Marple. Ce que la famille fait, à contre-cœur évidemment, mais pas le choix. Il faut trouver l'assassin. Donc, il faut poser des questions. Et y répondre. Bref, il faut parler. Dans Jeux de glace, les Serocold ne voulaient pas voir qu'il y avait un sacré problème à Stony Gates. Mr. Goldbrandsen a beau être mort, son cadavre hurle à tous les Serocold qu'il est temps d'ouvrir les yeux et d'affronter la vérité. Peut-être est-il mort pour ça, finalement. La victime est devenue la messagère de l'existence du mal. Une messagère sacrifiée. Mais ce sacrifice n'est pas vain, car dans tous les romans d'Agatha Christie, le meurtre permet que d'autres violences soient révélées. Des violences moins graves qu'un meurtre, mais des violences quand même. Dans Rendez-vous avec la mort, l'emprise et le sadisme tuent à petit feu les enfants Boynton. Lennox, le fils aîné, erre comme un zombie, et sa plus jeune sœur Geneviève est en train de devenir folle. Et en parlant de folie, dans La troisième fille, Norma Restaric est si malmenée qu'elle se croit folle. Quant à Audrey Strange, une des héroïnes de l'heure zéro, la manipulation a failli la changer en fantôme, apeurée. Humiliation, manipulation, menace, spoliation. Si le cadavre n'avait pas été trouvé là dans les familles en question, ces violences psychologiques n'aurait jamais été reconnu. Comment Audrey, Lennox et les autres auraient-ils pu prouver qu'ils étaient victimes de malveillance, de harcèlement, de machination ?
C'est le point essentiel. Il nous faudrait des preuves.
Se désolait Poirot.
Un crime, encore, et sans doute pourrions-nous...
Il s'arrêta, stupéfait du vœu qui lui venait à l'esprit.
Mon Dieu, voilà maintenant que je demande un nouvel assassinat.
Grâce aux morts, les langues se délient. Une autre violence peut être révélée et la victime peut commencer à se réparer. Poirot le dit noir sur blanc à Norma.
Votre supplice a pris fin, ma chère enfant. La victime ne sera pas sacrifiée. Vous n'êtes pas folle.
Cette libération de la parole grâce au cadavre, ce n'est pas très victorien, non ? Ce serait plutôt MeToo. Ou peut-être, plus précisément, MeToo hashtag inceste. Quand le mouvement a pris de l'ampleur début 2021, sur les réseaux sociaux, on pouvait lire cette phrase hashtag l'inceste, un crime sans cadavre. Les corps d'Agatha Christie viennent au secours des vivants, de la vérité. Voilà la vraie modernité. Et la raison sans doute de l'impérissable succès de Christie. Parce que, sans parler d'agression, de choses graves, qui n'a pas souffert un jour de l'indifférence de ses proches ? Qui n'a pas pu dire un chagrin, par peur de blesser les siens ? Ces jours-là, la lecture des romans d'Agatha, mine de rien, ouf, ça fait du bien. Agatha développe l'idée que les corps mémorisent les violences subies. Bien avant le concept de mémoire traumatique, la reine du crime alerte.
Rien n'est jamais réglé tant que tout n'est pas bien réglé.
La phrase n'est pas d'elle, mais du grand écrivain Rudyard Kipling, un vieil ami de Clarissa et Frédéric Miller, les parents d'Agatha. La romancière la trouve si forte qu'elle la citera dans trois de ses romans.
Rien n'est jamais réglé tant que tout n'est pas bien réglé.
Escuras eu mergulharei.
C'était Maïra avec Où vont les larmes.
France Inter. Un thé avec Agatha Christie.
Bonjour Maxime Chattam, vous êtes romancier. Parmi les louanges qu'on vous fait, votre imagination apparemment sans limite est régulièrement saluée par la presse, on va en parler. En France, vous avez vendu plus de 7 millions d'exemplaires de vos livres, ce qui est un score assez Agatha Christien, et vous êtes traduit dans une vingtaine de langues. Est-ce que vous avez un souvenir d'Agatha Christie que vous voudriez nous faire partager, votre découverte de ses livres ou une lecture, un visionnage de film, de série?
Ah, j'ai plein de souvenirs avec Agatha Christie. J'ai des souvenirs de jeunesse, d'adolescence, professionnelle et même très récents. Le plus récent que j'ai avec Agatha Christie, c'est que ça fait des années que je m'étais promis un jour d'aller voir Mousetrap, la souricière, la pièce de théâtre qu'elle a écrite en 52, je crois, c'est ça, qui est jouée à Londres, qui est la pièce la plus jouée, la plus ancienne qui est jouée en Angleterre. Et je m'étais promis un jour d'y aller. Je n'y suis jamais allé. Pourtant, je vais à Londres tout le temps. J'emmène mes enfants voir des comédies musicales depuis des années. J'ai réparé l'affront. J'y suis allé il y a quelques semaines seulement la voir. Et vous savez, il y a une légende là-bas qui circule qui dit que si vous vous faites déposer en taxi à la souricière et que vous ne donnez pas de pourboire au taxi, il vous dit qui a commis le crime avant la fin, à la fin, et donc je me suis empressé de payer cher mon pourboire en me faisant déposer.
Et alors, est-ce que vous aviez découvert qui était le meurtrier ?
Non, mais c'est l'avantage de Christie, c'est d'abord elle est très forte pour ça, pour noyer le poisson, et puis parce que je me suis laissé porter par l'ambiance, les personnages. Je crois pas dire de bêtises que dans la deuxième partie de sa vie, elle s'est presque plus intéressée au théâtre qu'à l'écriture de romans, en tout cas dans la dernière partie de sa vie. Et je peux comprendre pourquoi, parce que ce qu'elle a écrit finalement pendant des années, ce sont quasiment des pièces de théâtre littéraires, ces romans. Ces romans ne sont pas des... Alors, c'est pas affront de le dire, ce ne sont pas des grands romans de littérature en termes d'écriture. C'est efficace, ça marche.
C'est très efficace.
Voilà. Ce ne sont pas des romans avec des recherches extrêmement approfondies sur la criminalistique, ce qui est d'ailleurs paradoxal, puisqu'on est à une époque où la criminalistique a émergé. Conan Doyle, déjà lui-même, qui est précurseur par rapport à Agatha Christie, faisait plutôt de l'enquête par déduction, mais quand même intégrait déjà un petit côté quasi pseudo-scientifique, en tout cas dans sa démarche intellectuelle, dans celle de Holmes. Agatha Christie, elle ne va pas le faire. Elle va être dans quelque chose qui est purement intellectuel. Ses enquêtes sont sur la psychologie humaine, puisqu'on parle de meurtre, donc commis par des êtres humains. Et ben, la définition de l'être humain, c'est sa psyché, et donc elle va construire ses intrigues autour de la psyché des êtres humains. Et donc ces grands mouvements entre les personnages, leur pourquoi, le qui, quoi, comment, c'est quelque chose qui est très théâtral, quelque part. Et j'ai presque envie de dire qu'elle est dans la... D'ailleurs, je vais un peu fort, mais elle est dans la continuité de Shakespeare à sa manière, sans aller jusqu'à écraser la profondeur humaine dans que Shakespeare a pu faire. Elle travaillait finalement la psyché humaine à travers ses œuvres, à travers ses crimes, parce que finalement, quand on regarde les motivations criminelles dans ses romans, bah globalement, ça reprend un peu ce qui définit les êtres humains. Donc, alors, on peut pas dévoiler ce qu'elle a fait. Non, je ne vais pas spoiler, comment on dit, divulgâcher les romans d'Agatha Christie à ceux qui nous écoutent, ce serait un affront. Mais en même temps, on peut quand même dire que dans pas mal de ses bouquins, elle parle de tout ce qui peut motiver un être humain à tuer, et elle va, au gré de ses romans, vraiment, je trouve, aller toucher dans tous les sujets propres à l'humain, de la jalousie à l'ambition.
Oui, beaucoup la jalousie. Je trouve ça extrêmement intéressant. Je sais pas si ça vous frappe, mais elle explore beaucoup la rivalité, la jalousie, l'envie, alors qu'on est plutôt éduqué à les nier. Est-ce que ça vous inspire? Alors après, il y a mille choses dans ce que vous avez dit, donc moi j'ai envie de revenir sur plein de choses, mais peut-être sur la rivalité, la jalousie, elle en fait très souvent un ressort de ses crimes.
C'est
Qu'est-ce
très
que ça
vrai.
Vous inscrit, ça c'est vous très inspire, Maxime Chattam?
Non mais c'est très vrai, et alors que c'est quelque chose qui est surtout dans cette société-là, à l'époque où il faut mettre de côté ces sentiments qui sont des sentiments moches, clairement
négatif.
La société du début du XXe siècle, c'était anglaise, surtout la société bienséante, et en même temps elle va aussi s'intéresser à la réparation de l'erreur, enfin de la blessure profonde. Parfois, ces personnages, et quand je dis parfois, il y a quand même pas mal de romans dans lesquels ça se produit, ce sont des gens qui ont été profondément meurtris, blessés par la victime, donc ils vont se venger. Donc c'est une vengeance, mais la vengeance, elle s'explique par on m'a fait du mal dans mon enfance. Et donc, c'est quelque chose de très psychologique, finalement, réparer l'enfant qu'on a été. Je dis l'enfant, c'est pas toujours l'enfant, parfois c'est plus tard.
Non, mais vous avez raison, c'est souvent l'enfant. Et alors, justement, est-ce qu'on peut juste rebondir là-dessus? Vous disiez, vous aviez des souvenirs d'adolescence, d'enfance. Vous l'avez découverte à quel âge? Et qu'est-ce que ça vous a fait, Maxime Chattam, justement, de rentrer, donc enfant, si je comprends bien, dans ce monde-là, qui est quand même un monde des adultes et un monde particulier?
Oui, alors moi je l'ai découvert comme beaucoup, je pense, de ma génération à l'école, parce qu'on nous a fait lire. Moi, c'était ils étaient 10.
Oui, moi aussi, je crois.
Oui, à l'époque. Et bon, j'ai eu un souvenir. J'étais pas un grand lecteur à cette époque-là, mais j'ai quand même le souvenir d'une ambiance. Le manoir, l'île, m'avait marqué. Après, assez vite, la résolution ne m'avait pas marqué plus que ça, mais je pense que j'avais été pas très, voilà, j'étais ailleurs. Et un peu plus tard, en revanche, je suis retourné sur Agatha Christie. Pour une raison très très un peu loufoque. Un jour on parle des réincarnations machin et tout, j'ai 13 ans, un truc comme ça, j'étais tout gamin et donc je découvre ce qu'est le principe de la réincarnation. Bon, je me dis ouais, super, mais j'y crois pas une seconde. Et en même temps je me dis bon, ça serait drôle que je sois à la réincarnation de quelqu'un. Et je me dis mais qui est mort l'année de ma naissance? Et je regarde, et 1976, je vois Agatha Christie. Et j'avais lu ils étaient 10 peut-être un an ou deux avant, et du coup je me dis ah, Agatha Christie, c'est qui? Ah oui, ce bouquin. Oh bah je vais en relire un, et je relis Agatha Christie. Et là, forcément, à cet âge-là, j'ai l'âge, donc j'embraye dans le récit. En plus, c'est le meurtre de Roger Ackroyd qui, sans rien déflorer de la fin, a une fin très singulière.
Hein. Très particulière.
Et je me dis, waouh, c'est génial! Et j'ai commencé à lire Agatha Christie comme ça.
Ah, mais alors, attendez, c'est un scoop, Maxime Chattam, vous êtes la réincarnation d'Agatha
Christie. J'aurais tant aimé, mais non, je suis très lucide là-dessus.
qu'est-ce qui fait que vous êtes un fan? Est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce qui fait?
Pour plein de raisons. La première, c'est que déjà, quand vous écrivez des romans policiers, Agatha Christie a tout fait. C'est-à-dire, en matière de résolution, moi, j'aime les romans policiers, ma marque de fabrique, on va dire, c'est des romans documentés, thrillers, chapitres courts, voilà, etc. Description un peu de la psyché des personnages, y compris des assassins. Et une résolution finale surprenante, en général. Bon, mais ça, Agatha Christie, en la matière, avait déjà un peu tout fait. Et donc, quand vous avez lu... j'ai envie de dire, déjà, ne serait-ce qu'une douzaine de bouquins d'Agatha Christie, vous avez l'amplitude de ses résolutions, et elle en a fait bien plus que ça, et à chaque fois, elle se renouvelle. Et vous dites, mais comment je fais aujourd'hui, au XXIe siècle, pour trouver une fin originale, quand un siècle plus tôt, Agatha Christie a déjà presque tout fait en la matière? Et on parlait de Roger Ackroyd, en matière de fin singulière, elle avait fait quelque chose qui ne s'était jamais fait, qui était même presque une transgression des règles élémentaires.
Oui, ça lui a été reproché. Oui, on va dire quoi,
mais moi j'adore. En matière de roman policier, il y avait des règles, il fallait pas les transgresser. C'est comme ça, il faut pas mentir au lecteur, il faut pas... je sais plus quel était
le principe. Oui, le lecteur doit être à la même place que le policier. C'est les vraies règles du roman policier de Van Dien.
C'est ça, c'est Van Dien, ok. Mais en même temps, j'ai envie de dire, mais au contraire, les règles sont là pour être transgressées, surtout dans le roman policier, qui est censé, par moments, être un peu subversif quand il s'agit de décrire la société dans ses travers. Alors, Conan Doyle, Agatha Christie, les grandes figures anglaises du roman policier fin 19e et début 20e, sont pas les plus subversifs dans la matière. En revanche, en termes d'imagination et puis en termes de popularité internationale, hein, parce que les deux, ça a vraiment été... je pense qu'ils ont figé ce qu'allait être le roman policier du XXe siècle, à eux deux, s'amusaient, et je trouve que elle, qui a osé faire des fins très surprenantes et parfois nous bousculer un peu dans ces codes-là, je trouve que c'est extrêmement intéressant et très inventif.
Et alors, sans aller jusqu'à la fin, Maxime Chattam, ouvrir, en l'occurrence, un de vos livres, un Chattam, c'est s'attendre à avoir peur. Vous avez le donc pour faire frissonner. Est-ce que vous avez peur en lisant Agatha Christie?
Non, j'ai pas peur, parce que pour le coup, je trouve que c'est pas une autrice qui fait peur du tout. Elle cherche pas à faire peur, d'ailleurs. Elle a un rapport au crime, finalement, qui est très intellectuel. Presque plus que Conan Doyle, je trouve. Et y a qu'à voir, les victimes sont presque des artifices chez Agatha Christie. On est au début du XXe siècle, à une époque où on est vraiment dans l'émergence de la science forensique, de la criminalistique. Les empreintes digitales, dans les années 20, quand elles commencent à publier, c'est déjà un procédé qui est utilisé régulièrement, alors qu'il n'est pas encore fait tout à fait... qui n'est pas courant à tout niveau, mais qui existe dans la police, des deux côtés de la frontière, anglaise et française. Donc c'est pas anecdotique, on commence de plus en plus à parler de résolution d'enquête grâce à la science. Elle n'en a rien à faire. Et de la même manière, le corps, le cadavre, qui pourrait être quelque chose de très, très utile pour faire peur, ou même très utile pour raconter l'histoire, finalement, ça en sert très peu. Il a une fonction utilitaire, le cadavre, dans,
tout à fait,
chez Agatha Christie. Donc, voilà, on s'en sert pour résoudre l'enquête.
Vous êtes bien sur France Inter, on est dans un thé avec Agatha Christie, avec Maxime Chattam. Merci beaucoup. On en revient à la peur, au cadavre. Vous citiez Boileau-Narcejacques. On a beaucoup reproché à Agatha Christie, justement, de faire des cadavres aseptisés, qu'il n'y ait pas de scène de crime. Vous, au contraire, vous y allez, vous mettez en scène des tueurs et d'horribles vilains qui mutilent les corps. Comment ça vous empêche pas d'être fan? Comment vous jugez, par exemple, Boileau-Narcejacques, que vous citiez, sont très très durs avec Agatha Christie. Ils parlent de romans pour bonnes femmes, en quelque sorte.
Ils sont durs avec trop de monde, d'ailleurs.
Peut-être. Mais est-ce que ça vous gêne, vous, le côté, justement, apparemment aseptisé de ces scènes de crime?
Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est sa marque de fabrique. C'est pas quelque chose qu'elle a raté sur un de ses romans. On pourrait dire, bon, ok, il y a deux, trois bouquins, elle le fait pas très bien, alors que d'habitude elle le fait, que c'est son... Non. C'est sa marque de fabrique. C'est sa signature. Elle ne s'intéresse pas à la description, pour plein de raisons que j'ignore, hein, mais c'est certainement très volontaire. Ça ne l'intéresse pas. La description de la violence à travers le corps ne l'intéresse pas. La description de la violence à travers la psyché humaine, éventuellement, va l'intéresser. Elle est extrêmement... C'est une autrice sur la dynamique criminelle intellectuelle. Mmh. Elle cherche à comprendre l'auteur des faits, pourquoi et comment, à travers l'interprétation de la scène de crime, éventuellement, mais pas dans quelque chose de très réaliste. Donc non, moi ça me dérange pas, c'est assumé, et au contraire qu'elle était capable de se renouveler et de le faire, parce que j'ai pas mémoire du nombre de romans qu'elle a publié, mais il y en a quand même un certain nombre, et il y en a quand même très peu qui sont redondants, hein. Donc elle a cette capacité à être originale, à se renouveler régulièrement, en ayant toujours le premier principe de base. Je ne vais pas chercher à vous décrire le cadavre de manière très très directe, très frontale, explicite, voilà. Non, il aura une fonction utilitaire pour notre intrigue, car c'est... Mais en fait, lire un roman d'Agatha Christie, c'est prendre le thé avec une dame anglaise qui va vous raconter un crime, parfois difficile, mais elle va pas mettre les détails, et simplement, elle aura le sourire, une petite voix posée. Moi, je me vois bien dans sa petite maison blanche, là, avec la vue sur son beau jardin qu'elle aimait tant, et l'écouter me raconter une histoire en buvant le thé, et à la fin, merci, la résolution était surprenante. C'est une belle promenade, on sent qu'on prend soin de nous, en fait. Agatha Christie s'intéresse, elle veut pas broyer son lecteur dans quelque chose d'extrêmement dur et froid. Donc les romans d'Agatha Christie ne font pas peur. Ils sont intrigants, mystérieux, mais ils ne sont pas dérangeants. Et il y aura toujours une ligne rouge qu'elle ne va pas franchir, y compris dans la psyché humaine. Elle n'ira pas dans ce qu'il y a de pire, dans la perversion, ça ne l'intéresse pas.
Est-ce que, et alors justement, par rapport à tous ces romans ultra noirs, ce que vous écrivez aussi, comment vous expliquez qu'on la lise encore aujourd'hui, Maxime Chattam?
Probablement parce que elle décrypte finalement l'être humain dans sa psychologie, dans ses grands mouvements, dans ce qu'il a de parfois de plus moche, mais ça c'est intemporel. On parlait de Shakespeare. Shakespeare est encore aujourd'hui lu, prisé, parce que finalement, il décrivait pas sa société dans le détail. Il décrivait l'être humain dans le détail. Et l'être humain, lui, que ce soit au 15e, entre le 16e, 17e ou Agatha Christie 20e, ça marche quand même.
C'est ce que dit Marple. La nature humaine est la même partout, elle ne change pas.
Oui, complètement. Et je pense que quand on lit Agatha Christie, on retrouve les codes de ce qu'on est, peu importe l'époque. Il y a des petits voyages, il y a parfois un peu d'exotisme, mais même ça, c'est pas quelque chose, elle va pas chercher à surdocumenter Mort sur le Nil ou à Bagdad. C'est pareil, c'est pas des romans dont le décor ça aurait pu se produire ailleurs, ça changeait pas grand chose à l'histoire, finalement.
Oui, tout à fait.
C'est encore une fois, c'est un artifice de narration, mais c'est comme une pièce de théâtre, on change le décor, mais ce qui nous intéresse, c'est les comédiens, ce qu'ils vont faire. Elle s'intéresse à ses personnages, pourquoi, comment, et donc elle décrypte l'être humain, et ça, c'est encore quelque chose de moderne.
Tout à fait. Et alors, vous citiez des titres là, si vous aviez peut-être pas un titre préféré, mais deux ou trois.
Oh, c'est difficile. Moi, c'est les grands classiques. Hein. Je suis pas très original là-dessus. Le meurtre de Roger Ackroyd, parce que je trouve que la fin, pour le coup, elle est très surprenante.
Ouais, donc très conceptuelle.
Ouais. Je pense forcément au Crime de l'Orient Express, parce que là encore, la fin est très réussie. On s'attend à beaucoup de choses. Et alors, pareil, c'est difficile d'en parler sans rien déflorer, mais Vous savez, dans le roman policier, toujours les gens vous disent j'ai trouvé avant la fin qui c'était. Parce que vous leur posez la question, mais pourquoi vous avez pensé à qui? Bah d'abord j'ai pensé à lui. Puis après je me dis, mais non, c'est pas lui, c'est lui. Puis après j'ai pensé à lui. Puis mais en fait vous avez suspecté tout le monde. Donc forcément, l'art du truc, c'est d'être arrêté à la bonne personne pour les bonnes raisons, au bon moment, pas avoir suspecté tout le monde dans le bouquin au fur et à mesure. Et pour ça, le crime de l'Orient Express est formidable.
Tout à fait. Et vous êtes plutôt Marple ou Poirot?
Oh, je suis Poirot, mais parce que déjà parce que il est quand même très présent, beaucoup plus, je crois, que Marple dans les bouquins de, en tout cas dans mon souvenir,
vous
il
avez
est
raison.
Beaucoup ouais. Beaucoup plus présent dans
33 romans Poirot et 12 Marple.
Oui, c'est ça. Oui, ça m'étonne pas. Bah parce que je me souviens plus de lui finalement, parce que il est très singulier. Marple, elle a plus ce côté un peu très Agatha Christie elle-même finalement quelque part. L'impression que c'est un peu elle. On voit cette dame très bien élevée dans son petit village anglais avec son petit thé, son petit truc. Alors que Poirot, bah il a ce côté un peu sûr de lui, presque par moment il est presque un peu agaçant, sa petite moustache, son côté belge qui est amusant en fait. Alors elle le caricature parfois,
ouais, elle s'en moque.
Ouais, elle s'en moque, mais du coup c'est marrant, il y a un petit truc un peu puis d'un bouquin à l'autre elle le fait, alors c'est toujours le même personnage, mais on voit qu'elle joue avec autrement en fonction des périodes de sa vie peut-être, je sais pas.
Et alors justement, vous disiez c'est marrant, il y a aussi de l'humour dans Agatha Christie.
Oui.
Et puis si on regarde la façon dont elle est adaptée, c'est très très large en fait le spectre. Vous avez Sarah Phelps d'un côté, ou Gilles Paquet-Brenner qui avait fait La Maison Biscornue en 2017, mais un vrai drame, une tragédie. Et puis vous avez David Suchet ou les Marple qui sont plutôt cosy crème. Vous, dans votre goût, pour vous, c'est qui Agatha Christie?
Oh, c'est dur.
Si vous deviez l'adapter, enfin, je sais pas d'ailleurs si vous y aviez déjà pensé.
Non, j'y ai jamais pensé. J'avoue que j'ai aimé les deux adaptations, trois même, de Kenneth Branagh.
Oui.
Parce qu'il y apporte un truc, quoi. Il respecte une bonne partie de l'œuvre et en même temps, il y apporte quand même une esthétique particulière, notamment Mort à Venise, je crois. Il a tenté des choses dedans qui marchent très très bien. Et j'avais eu envie de relire le livre en me disant, mais je me souvenais pas que le livre était à ce point comme ça, aussi noir. Et je crois pas d'ailleurs. Je pense qu'il a dû y apporter sa patte quand même.
Oui, et du fantastique, me semble-t-il aussi.
Ouais, cette dimension-là. Du coup, forcément, c'est les derniers que j'ai regardés. Et Kenneth Branagh en Poirot, il y a un truc un peu magique. L'acteur shakespearien par essence.
Qui marche pas mal.
Ouais, j'ai trouvé que ça marchait bien.
Il court un peu vite.
C'est vrai, il court un peu vite. Oui, il manque d'un peu dans. Il est un peu plus empâté parce que il aime les pâtisseries.
Oui, il est gourmand.
Ouais.
Et alors, je voulais revenir pour terminer à l'imaginaire dont on parlait au début. Vous faites partie, je crois, de la Ligue de l'imaginaire.
La Ligue de l'imaginaire.
Et Agatha Christie aurait pu en faire partie.
Ah bah, on aurait été très fiers. Ça aurait été la bosse. Ça aurait été un bonheur de pouvoir passer un moment avec elle, partager un thé et discuter de nos intrigues en cours avec elle. Oui, ça aurait été magique.
On est d'accord.
Elle nous aurait corrigé, forcément. Elle nous aurait dit trop de violence.
Pour vous, c'est sûr.
Ouais.
Et je rappelle le titre de votre dernier roman, 8,2 secondes, un thriller hitchcockien. Merci Maxime Chatham. C'est la fin de notre quatrième épisode d'Un thé avec Agatha Christie, avec les voix de Perrine Marié, Catherine Pietri et Frédéric Constant. Merci à toutes les personnes qui m'ont aidé pour préparer cette émission, Charles de Cilia à la réalisation, à la technique Guillaume Roux et Marie Potier, programmation musicale Djoubaka, Emmanuel Lucioni à Lina pour la documentation, et merci à Marius Serriès, attaché de production. On se retrouve demain à 16h sur France Inter pour notre cinquième et dernier épisode d'Un thé avec Agatha Christie. Il sera intitulé « Marple et Poirot, l'âge de raison ». Nous parlerons moustache, rhumatisme et petites cellules grises.